de mauvaises raisons, en particulier un racisme dissimulé, grâce à une présentation fallacieuse.
Mais plus fort.
D'appeler à renforcer le combat antimilitariste pour des cessez-le-feu immédiats, l'arrêt des génocides, dont Gaza est aujourd'hui, on ne peut être que révulsé par voir le sort qui est fait à la population
regarde,
de Gaza.
Regarde, pas grave, il n'y a rien. Hein? Ici,
ça révulse des millions d'habitants de notre planète. Et d'ailleurs, il ne se passe pas de jour sans que soit annoncé 20, 30 morts, la destruction d'une école, d'un hôpital. Et, hein, et aussi, dans le monde entier, il y a eu des abominations guerrières hein, toute l'année 2024, au Soudan, dans la RDC du Congo, dans le conflit Russie-Ukraine. Excusez-moi. Nous appellerons aussi à renforcer le combat pour l'émancipation humaine. D'ailleurs, il y a 231 ans, un pas fondamental a eu lieu en France. La rupture avec la monarchie, avec la décapitation de Louis XVI. C'est ce que célèbrent ces républicains que sont les libres penseurs dans un banquet dit de la tête de veau. Bien sûr, ce n'est pas la mort d'un homme que nous commémorons. Donc ce banquet aura lieu le dimanche 26 janvier au centre d'animation et loisirs des Carmes, 2 rue des Grands Carmes, c'est juste à côté de l'hôtel de région. Et sera précédé à 10h30 d'une conférence sur l'histoire de la laïcité et des trois séparations des églises et de l'État. Michel Garin va s'atteler à nous parler de ces banquets. Puis Henri Huil reviendra sur le discours prononcé par Macron dans une cathédrale. Enfin, Claudette abordera, au sujet de la restauration de la statue de Notre-Dame de la Garde, des éléments qui ne peuvent qu'indigner les laïcs. Michel, à toi de commenter cette tradition des banquets tête de veau.
Oui, alors tout d'abord, meilleurs voeux à nos auditeurs hein, et bonjour. Alors, sur les banquets. Alors, il faut savoir que traditionnellement, comme une perspective d'avenir, les libres penseurs organisent des banquets à plusieurs occasions et sous différentes formes hein, politiques, dits républicains, autour du 21 janvier, sociétales, pour la libre pensée, le vendredi 10 saint, ou pacifiques aux alentours du 11 novembre. Les banquets que nous organisons ce dimanche 26 février janvier, donc, fera partie de ceci. Alors, il était organisé 232 ans après la disparition, le 21 janvier 1793, du citoyen Capet, surnommé Louis XVI, non pour célébrer la mort d'un homme, mais pour célébrer l'avènement de la Première République. Alors, les banquets. Alors, le mot banquet est juste une petite info, quoi. Il est emprunté de l'italien banchetto. Alors, je ne sais pas si je prononce proprement, mais ça veut dire proprement petit banc, un dérivé du mot banco, banc. Voilà pour la signification. Alors, il faut savoir que les banquets ne datent pas d'aujourd'hui, bien entendu. À Athènes, dès le 17e siècle, avant Jésus-Christ, hein, les sources textuelles et iconographiques permettent de connaître le déroulement des repas et des prises de chant, la musique et l'échange de paroles. Alors, à cette époque, les banquets sont partie intégrante des rites qui organisent le culte des divinités en Grèce antique. Hein, les Grecs consomment de la viande, des animaux sacrifiés, boivent du vin, après en avoir offert en libation aux dieux. Par la pratique sacrificielle, je veux dire, et la commensualité, les Grecs construisent un système global de croyances qui délimite la place des humains entre le monde des dieux et le monde des bêtes. Sacrifices, libations et repas sont un élément de la définition sur ces banquets. Alors, qu'en est-il, je ne dirais pas aujourd'hui, mais dans ces dernières centaines d'années, ces deux centaines dernières années, le banquet politique naît au moment de la Révolution française. En 1789, dans toutes les villes de France, le banquet en plein air, dans les rues, est une forme nouvelle de sociabilité pour affirmer l'enthousiasme patriotique et l'unité de la nation. Au cours de ces repas civiques, on célèbre les nouvelles libertés. Les participants veulent construire les fondements d'une communauté nationale plus égalitaire. Mais cette célébration dans l'unité des acquis révolutionnaires dure peu. le banquet public qui avait pour fonction civique le rassemblement populaire se framoque entre bourgeois et sans culottes, et l'été 1794, les banquets dits fraternels disparaissent. En 1869 et 1830, sous la Restauration, une campagne de banquets est organisée par la coalition libéraux-républicain afin de lutter contre la politique droitière de Jules de Polignac. Les républicains participent aux banquets organisés par les libéraux, mais n'approuvent pas forcément les idées qui s'y diffusent. En avril 1830, Godefroy Cavaignac refuse de porter un test au roi lors d'un banquet organisé par les 221 signataires de l'adresse à l'encontre de Polignac, chef de gouvernement de l'époque. Cette campagne, malgré les divergences qu'elle fait apparaître entre libéraux et républicains, sera l'un des facteurs qui feront que la Restauration sera renversée au profit de la monarchie de Juillet. Bien entendu, ça continue. Et en 1847, sous la monarchie de Juillet, le banquet de Château Rouge, le 8 juillet 1847, réunissait quand même 1200 convives, ouvre la campagne des banquets. Alors, sous le règne de Louis-Philippe, le banquet politique va renaître comme un moyen de contourner l'interdiction des réunions prises par le gouvernement réactionnaire du ministre Guizot. En 1847 et 1848, le banquet, je viens de le dire, le fameux banquet de Châteauneuf avait quand même réuni 1200 personnes. C'est quand même un sacré banquet, je dirais. Alors, 70 banquets vont se tenir dans des villes de France. Le banquet se prolonge jusque dans la soirée. Il peut rassembler une centaine de convives, parfois beaucoup plus, mais pratiquement jamais des femmes. Chacun paye son écho et le prix est suffisamment élevé pour exclure les classes les plus populaires jugées trop révolutionnaires. On voit déjà que là, il y avait une certaine interprétation du banquet. La plupart des toasts, des allocutions dans ces banquets, demandent l'élargissement de la base électorale, car sous la monarchie de Juillet, seuls votent ceux qui payent le cens. Impôt qui écarte le plus grand nombre. Peu à peu, les républicains aussi se font entendre. Et à Lille, le député Ledru Rollin, acclamé, réclame la République et le suffrage universel masculin. Cette fonction subversive du banquet se répand. Devant l'emprise prise par le mouvement, le gouvernement fait preuve de fermenté, refusant d'ouvrir le débat, et le préfet de police de Paris fait interdire une de ses réunions qui devait se tenir à Paris le 22 février 1848. Si les plus modérés prennent alors du recul vis-à-vis de ces initiatives, hein, on peut voir qu'aujourd'hui on a à peu près les mêmes résultats, il est trop tard pour faire machine arrière et des protestations surviennent le jour dit qui entraîne la révolution de février 1848, le départ du roi des Français, Louis-Philippe, et la chute de la monarchie de Juillet. Dernier régime politique du royaume de France, mettant en définitive fin à la campagne des banquets. Alors, on a retrouvé quand même des exemples hein, dans la région. J'avais constaté un exemple qui était ce qui s'est passé sur Vitrolles, hein, un rapport de commandant de police qui avait lieu un 8 février 1850, on peut le voir un peu après. Le rapport de police disait texto, voilà, je lis, « J'ai l'honneur de vous informer que le 8 au soir, à l'occasion d'un dîner de mariage, une farandole a eu lieu dans la commune de Vitrolles, et des propos séditieux ont été proférés tels que « Vive Barbès, raspaille Ledru Rollin, abat les carlistes à la lanterne, vive la guillotine ». Vous voyez que cette foule-là, aujourd'hui, on est loin d'entendre ces slogans dans la rue. On se fera arrêter facilement, hein, ce qui se passe d'ailleurs sans même avoir ces slogans. Voilà, alors c'est comme ça que... Alors ce modèle de campagne, bien entendu, il a bien continué à inspirer pas mal de mouvements politiques, hein, notamment, par exemple, des campagnes de banquets russes en 1904, hein, organisées par le tsar Nicolas II en prémisse de la révolution russe de 1905. Il y a eu ces genres de banquets. Alors après la révolution de l'Empire napoléonien, après la guerre de 1870, de grands banquets républicains de plusieurs milliers de convives sont de nouveau mis en place pour magnifier et conforter la jeune République, fragile et en butte à l'opposition monarchiste. Alors le banquet, petit à petit, devient institutionnel et vecteur d'unification symbolique. Par exemple, le banquet des chefs-lieux de canton ou banquet commémoratif du centenaire de la Révolution française, mais l'apothéose des banquets républicains a eu lieu, en 1900, lors de l'exposition universelle. Lors de cette innovation universelle, à l'initiative du président Émile Loubet et du président du conseil Voltaire Rousseau, tous les maires de France sont conviés. 22 965 répondent à l'invitation. Vous vous rendez compte un peu, 22 000 personnes dans un banquet. La date du 22 septembre, anniversaire de la proclamation de la Première République, est choisie. L'organisation dans le jardin des Tuileries demande une logistique extraordinaire. On dresse 7 km de tables sous de grandes tables. On a cuisiné des milliers de saumons, de volailles et prévu 39 000 bouteilles de vin. Imaginez un peu ce que ça peut être, 39 000 bouteilles de vin, c'est-à-dire une fois et demie, une bouteille et demie par personne, par convive. Alors, les maires qui s'étaient venus donc, de tous les départements métropolitains, d'Algérie, d'outre-mer, et sont installés par département et par ordre alphabétique. Ce banquet souhaitait réunifier la France déchirée par l'affaire Dreyfus et se veut un temps fort de l'affirmation d'une histoire collective de l'expression unanimiste républicaine. Alors, bien entendu, à la fin du 19e siècle, les maires organisent des banquets dans plusieurs milieux de confines. C'est pour et la tradition se perpétue toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on dit qu'on peut le voir, que ces banquets donc, sont vraiment politiques, hein, et ils avaient pour but d'essayer de modifier un peu la société par une forme, je dirais, moins polémique, parce que ce n'est pas une manifestation, c'est un banquet, on parle, on discute, mais on discute beaucoup politique, je dirais. Alors qu'en est-il des origines du banquet tête de veau que l'on va célébrer donc le 20, je l'ai dit tout à l'heure, le 29,
26.
Le 26, excusez-moi, le 26 janvier. Alors la tradition, elle remonte, elle, à 1794, un an après la mort de Louis Capet, quand le citoyen Romeau publia un pamphlet, La tête et l'oreille de cochon, où il suggéra de remplacer les fêtes religieuses en commémorant les épisodes les plus marquants de la Révolution. Il propose ainsi d'organiser chaque 21 janvier des banquets servant de la tête de cochon pour commémorer la fin de l'Ancien Régime. Chaque 14 juillet, pour la fête de la Fédération, de déguster un gâteau en forme de Bastille ou encore un gras poulet d'Inde. Le 10 août, célébrer la chute de la monarchie en 1792. Mais dès 1848, la tête de veau prévaudra sous l'influence anglaise du banquet célébrant le 30 janvier la décoration du roi Charles Ier en 1649. Excusez-moi. Voilà ce qu'il en est des banquets. Alors bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois types de banquets. Et la libre-pensée, la fédération départementale, elle se charge d'en organiser au moins deux. Donc celui qui va se passer le 26 janvier sur la tête de veau. Et il y en aura un autre à l'occasion du vendredi 10 saint sur tout ce qui est les interdits religieux, bien sûr, mais tous les interdits. Et en règle générale, je dirais, beaucoup de banquets dans la libre pensée sont organisés également à l'occasion, aux alentours du 11 novembre, qui est sur le thème du pacifisme, bien entendu. Voilà pour ce qu'il en est des banquets.
Merci Michel. Est-ce qu'il y a une chanson pour accompagner ton propos ?
Alors oui, j'ai choisi une chanson que je ne connaissais pas. Hein, je l'ai choisie, cette chanson. Elle s'appelle en définitive « Aussitôt que la lumière ». Elle est interprétée par Christine. Alors, maître menuisier au début du XVIIe siècle à Paris, ce poète artisan devint célèbre auprès de ses contemporains, en composant rondeaux, odes et poèmes. Avec bonheur, semble-t-il, puisqu'il fut appelé le Virgile du Rabot. Alors, il faut dire qu'on parle des alentours de 1600. Cette chanson donc a traversé les siècles et la musique servit de trame à plusieurs chansons composées sous la Révolution française, comme « Est-il bien vrai que je veille ?» ou « Le réveil du père Duchesne ». Les paroles d'Aussitôt que la lumière indiquent que ce chant à boire est très certainement l'ancêtre de la plus moderne et la plus populaire chevalier de la table ronde. Voilà pour la signification de ce poème, de cette musique. Alors maintenant, bien entendu, on va vous mettre la chanson, cette chanson. Excusez du silence.
Oh, que la lumière ardorait nos coteaux, je commence ma carrière par visiter mes tonneaux. Ravi de revoir l'aurore, le suis sur la rive morte, plus qu'à mon nez de rubis, le plus grand roi de la terre. Quand je suis dans un repas, s'il me déclarait la guerre, ne m'épouvanterait pas. À table, rien ne m'étonne, et je pense quand je bois, si là-haut Jupiter tonne, que c'est qu'il a peur de moi. Si quelque jour est enivre, la mort arrêtez mes pas. Je ne voudrais pas revivre pour changer ce grand trépas. Je m'en irai dans la verne, faire enivrer Alecton et planter une taverne dans la chambre de Pluton. Par ce nectar délectable, les démons étant vaincus, je ferai chanter au diable les louanges de Bacchus. J'apaiserai de tantale la grande altération, et passant l'onde infernale, je ferai boire Ixion. Au bout de ma quarantaine, sans ivrogne m'ont promis de venir la tasse pleine au gîte où l'on m'aura mis pour me faire une hécatombe qui signale mon destin. Ils arroseront ma tombe de plus de 100 brocs de vin, de marbre ni de porphyre, qu'on ne fasse mon tombeau. Pour cercueil, je ne désire que le contour d'un tonneau. Et veux qu'on peigne ma trogne avec ses vers alentour. Sigille plus grand ivrogne qui jamais vu le jour.
Eh bien, merci. Henri, il y a eu un discours prononcé par Macron dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. En quoi est-ce une forte remise en cause de la loi du 9 décembre 1905 ? S'il te plaît, décris-nous ce qui se passe.
Oui, eh bien, bonjour à tout le monde. Essentiellement, il me paraît important d'abord de préciser un point. Incontestablement, la cathédrale dite Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine culturel du pays et au-delà. Je crois que c'est quand même important à dire. Alors, c'est vrai au plan architectural, je ne commande pas, au plan historique, c'est vrai au plan juridique, puisque cette cathédrale de Notre-Dame de la Garde appartient à la République française, elle appartient à l'État. Elle fait aussi partie du patrimoine culturel littéraire. Le célèbre écrivain, libre penseur Victor Hugo l'a rendue célèbre dans le monde entier. Qui ne connaît pas les noms d'Esmeralda, Quasimodo, etc., etc. On les connaît, pour beaucoup d'entre nous, depuis l'école. Maintenant, il faut être lucide. La comédie musicale a fait aussi beaucoup pour la connaissance de cette cathédrale et pour sa renommée mondiale. qui n'a pas fredonné, comment ne pas être amoureux d'Esmeralda en écoutant sa radio dans la voiture ou dans sa salle de bain. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être tout à fait lucide, le dessin animé américain qui s'appelle, je crois, Le Bossu de Notre-Dame a fait encore plus pour la renommée mondiale de cette cathédrale. Je pense que beaucoup de citoyens, peut-être américains de l'Alabama ou du Delaware, ou peut-être de certaines régions rurales de Chine ou d'Inde ou ailleurs, ne connaissaient pas Notre-Dame de la Garde et ne connaissaient pas non plus Victor Hugo quand ils ont vu le dessin animé américain dans une salle de cinéma ou sur leur écran de télé. Donc, en résumé, Notre-Dame de la Garde fait bel et bien Notre-Dame de Paris, pardon, fait bel et bien partie du patrimoine mondial de l'humanité. Mais j'insiste, elle appartient à la République, cette cathédrale. Alors, autre chose, ça c'est la partie culturelle. Et puis il y a une partie cultuelle, c'est-à-dire une partie attachée à la religion, puisque une cathédrale, on y célèbre, c'est une cathédrale, donc on y célèbre des messes, des événements religieux divers et variés, voilà. Et donc, à l'occasion de la fin des travaux, le président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, je vous le rappelle, a fait un discours politique dans un lieu de culte. Ça, c'est une réalité tout à fait incontestable. Ça s'est passé le 7 décembre dernier. Et donc, il a joué de manière habituelle chez lui sur l'ambiguïté qu'on retrouve dans tous ses actes et discours. Là, il a joué sur l'ambiguïté culturelle et cultuelle. Et il s'est présenté, il s'est posé en grand reconstructeur de la cathédrale, même si je doute qu'il ait même soulevé une brique. Et ce qui est ce discours politique dans un lieu de culte, c'est formellement interdit par la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État. Pas de réunion politique dans les lieux de culte. Et gageons que si, je ne sais pas... un chef religieux d'une autre religion, un prêtre d'une autre religion, tenait, ou peut-être même de cette religion-là, tenait des discours politiques dans son église, il aurait maille à partir avec la police et la justice. Ce qui est d'autant plus remarquable en matière d'hypocrisie chez Macron, c'est que c'est le célèbre tandem, les deux duettistes que le monde entier nous envie, c'est-à-dire Macron et Darmanin, qui ont, par la loi séparatisme, modifié la loi de 1905 et donc ont aggravé les peines. Et si vous faites un discours politique dans un lieu de culte, c'est puni beaucoup plus sévèrement maintenant que ça l'était avant ce célèbre tandem de policiers, en fait. Macron s'est rendu coupable d'une grave infraction, d'un délit important, sévèrement puni par la loi maintenant. Simplement, comme il est président de la République et qu'en réalité, la Ve République n'est pas une République, qu'il est exempté de peine, c'est-à-dire qu'il ne sera même pas jugé pour ce qu'il fait en tant que président de la République. C'est-à-dire qu'il lui-même bénéficie d'un régime tout à fait dérogatoire. Et donc, il peut, c'est quand même, ça signe un peu le personnage, commettre un délit qu'il a interdit aux autres de commettre, qu'il a contribué à interdire aux autres, du moins. Donc, c'est tout ça nous renseigne sur le pays dans lequel on vit et le gouvernement sous lequel on vit. Alors, l'excuse de la pluie, parce que ce jour-là, il pleuvait sur Paris, il faisait très froid, paraît-il, et donc ils sont rentrés à l'intérieur, ne peut en aucun cas être retenue, puisque... Comme vous le savez, la France est une puissance nucléaire. Et donc très très probablement, elle a les moyens de payer un parapluie au président de la République. Ainsi qu'aux notables qui, d'ailleurs, n'hésitent pas à voyager en jet à tout propos et hors de propos. On peut aller en jet à Pau. Donc on doit pouvoir protéger la tête du président par un parapluie. Alors le point qui me paraît important... à développer dans cette affaire, c'est que le caractère politique du discours de Macron lui-même ne peut pas être mis en doute, ne peut pas être nié. Il n'a pas fait un discours culturel. Je vais juste citer un petit passage. Il dit cette reconstruction de Notre-Dame est une métaphore heureuse de ce qu'est une nation et de ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix. Deux points. Fraternité universelle et entraide. Refermez les guillemets. Ça, c'est un discours politique, c'est en quelque sorte un programme politique d'un chef d'État. Voilà. Alors, comme vous savez que je suis libre penseur et que donc je vois le mal partout et que j'ai l'esprit mal placé, j'ai lu ça avec. Je suis un peu tombé de ma chaise. Fraternité universelle et entraide. C'est pas beau ça, madame ? Alors, je suis allé voir du côté de la réalité. Et du côté de la réalité, vous savez qu'on a un gouvernement qui s'appelle le gouvernement de M. Bérou, qui est nommé très récemment, il y a vraiment peu de temps que ce gouvernement a été constitué. Ils ont déjà pris des mesures quand même. Alors, j'ai jeté un œil au rayon entraide et fraternité. Et j'ai trouvé qu'ils avaient publié un décret en application de la loi. Alors, comme on est chez les hypocrites, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'hypocrisie, l'ambiguïté à tous les étages et sur tous les sujets. La loi, elle s'appelle « bien vieillir ». C'est donc un coup contre les vieux. Ils ont appelé la loi « bien vieillir », la loi « sécurité générale », c'est la police partout, la justice nulle part. La loi « bien vieillir », ça veut dire qu'on va s'en prendre aux vieux. Voilà, ça, c'est clair. Et effectivement, j'ai pas été déçu. C'est un décret qui est sorti, concerne les EHPAD d'application de cette loi, les EHPAD publics ou privés non lucratifs. C'est-à-dire non pas les trucs privés pour faire du pognon, mais voilà. Et donc, en 2025, pour éclairer un peu le sujet, les établissements auront la possibilité de facturer jusqu'à 35% plus cher les séjours en EHPAD. Alors, 35% plus cher que quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est fixé pour les gens, les résidents, qui bénéficient de certaines aides sociales. Les aides sociales, j'en ai relevé deux, les plus importantes et de loin. L'aide sociale à l'hébergement et l'allocation personnalisée d'autonomie. Eh bien, pour les retraités, pardon, les résidents, qui sont retraités en général, les résidents de ces établissements publics et à but non lucratif, pourront être facturés 35% plus cher dès lors qu'ils ne bénéficient pas de ces allocations. Alors, j'ai poursuivi un peu mes recherches. La moyenne des retraités actuellement en France est de 76 ans. C'était vrai en 2003. Je pense que ça a assez peu changé. En 76 ans, moyenne des retraités en France. Et le revenu moyen en 2023, toujours, c'était 1000, la retraite, le cumul des retraites, parce qu'il y a les retraites de base, les retraites complémentaires, etc. Disons que les revenus de retraite, c'était de 1215 euros, en sachant que la retraite minimum est de 814 euros brut. Brut. C'est-à-dire le net, c'est beaucoup moins en général. Hein. Et donc, si on augmentait les tarifs, alors je vais vous donner juste le pourcentage, je vais m'expliquer sur les tarifs après, 35% de plus, ça fera en moyenne environ, en moyenne, 700 euros par mois. En moyenne, ça veut dire que certains, ça leur ferait moins, et d'autres, ça leur ferait beaucoup plus. 700 euros par mois. Donc on est dans le chapitre aide fraternelle et entraide, voilà. Et donc, par exemple, j'ai regardé les tarifs, toujours en 2023. Par exemple, le département le moins cher, puisque c'est les départements qui gèrent ça, c'était la Meuse, avec le tarif mensuel de l'EHPAD, 1653 euros. Le plus cher, c'est à Paris, le département de Paris, 75, 2685 euros. Et donc si vous augmentez ces sommes de 35%, je ne sais pas si vous voyez le carnage. Et donc, comme j'ai toujours l'esprit mal placé, j'ai regardé dans les Bouches-du-Rhône. Alors dans les Bouches-du-Rhône, il y a une petite particularité qui est intéressante. C'est qu'il y a 134 lits, en 2023 toujours, il y avait 134 lits de place d'EHPAD pour 1000 personnes de plus de 80 ans. Ça fait 134 pour 1000 qui ont plus de 80 ans. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont plus de 80 ans doivent aller à l'EHPAD, mais c'est plutôt dans cette catégorie de population que chez les mecs qui ont 25 ans, qu'on retrouve la population des EHPAD. Et je continue toujours en espérant pas trop vous assommer avec mes chiffres. Le tarif moyen, c'était dans le public de 2000 euros et dans le privé de 2600 euros dans les Bouches-du-Rhône. Hein, on est donc en gros dans la fourchette nationale. Voilà, quoi. Ce qui est remarquable dans les Bouches-du-Rhône, c'est que le public ne représente que 17% des places. 83% des places, c'est le privé. Là, je n'ai pas trouvé le privé non lucratif et le privé lucratif. Mais j'ai regardé, en fait, dans différents documents. Et ça, c'était les chiffres officiels que je viens de vous lire. J'ai regardé comme ça, comme si je cherchais une place en EHPAD pour moi-même. Voilà. Et donc, dans les Bouches-du-Rhône, vous trouvez, dans le privé, à partir de 2600 euros, pas moins, à partir de 2600 euros mensuels. Et ça peut aller à partir de 3400 euros mensuels. Quand vous avez marqué « à partir de 3400 euros », ça veut dire que ça peut être beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà le véritable coup de matraque contre ce qu'il est convenu, je ne sais pas, il faudrait qu'ils appellent ça les classes moyennes. Je ne suis pas sûr que ça soit très moyen. Mais voilà parmi les gens qui ont, disons, des retraites convenables, donc qui ne bénéficient pas des aides, voilà le fait qu'ils sont exposés maintenant à ce que leur département puissent faire des augmentations différenciées pour eux qui iraient jusqu'à 35% supplémentaires. J'ai dit tout à l'heure, en gros, ça fait 700 euros par mois. Donc vous prenez quelqu'un qui a une retraite de 2000 euros. Il doit payer dans les Bouches-du-Rhône entre 2000 et 2600 euros. Et ça pourrait être augmenté d'encore 700 balles. Voilà, je développe pas plus. Mais c'est important de savoir ce que valent les discours rapportés aux faits. Hein, parce que enfin, me dire oui, mais ce sont des principes généreux qui vont bien dans une cathédrale. Je ne sais pas si le tarif va bien dans la cathédrale. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Et donc le susdit Emmanuel Macron a aggravé son cas puisqu'il a récidivé le lendemain 8 décembre. Et attention, ce n'est pas un coup du hasard. Il est allé à la messe le dimanche. Bon, alors vous me direz, Macron, il est comme ma voisine de palier, il a le droit d'aller à la messe. Oui, mais en tant qu'individu, pas en tant que président de la République. Lui, évidemment, il est allé en tant que président de la République. Et c'était le jour, je vous le signale en passant, de la fête chrétienne qui s'appelle l'Immaculée Conception. Et là où il y a un caractère provocateur, triplement provocateur, donc, puisque c'est contraire à la loi. Deuxièmement, c'est encore contraire à la loi, puisqu'il y va en tant que président de la République, à la messe, le lendemain de son discours interdit. Troisièmement, c'est la veille du 9 décembre, le 8, hein, c'est la veille du 9, j'ai rien inventé. Et le 9 décembre, c'est l'anniversaire de la loi de séparation qui vise à établir, non pas interdire aux citoyens de pratiquer leur religion, comme on veut nous le faire croire, qui vise à interdire le fait que la religion domine l'État et qui vise donc à interdire que l'État, en principe, s'occupe des questions religieuses. Et évidemment, le but du jeu, c'est d'assurer la liberté de conscience et leur égalité face à la loi, face à l'État. Et l'égalité, ça suppose qu'aucune religion ne soit reconnue. Parce que pour être sûr que les religions sont traitées à égalité, il ne faut pas que l'État s'en occupe. À partir du moment où l'État, on le voit dans tous les, par exemple dans différents pays, où la religion, il y a une religion d'État, quand il y a une religion d'État, elle est privilégiée, et ceux qui sont adeptes de cette religion, par voie de conséquence, sont privilégiés plus ou moins par rapport à ceux d'autres religions ou à ceux qui n'ont pas de religion. Pour conclure, je veux juste dire ceci, c'est que c'est important cette question de non-reconnaissance des cultes. Parce que ça ne veut pas dire que l'État ignore que la police ou, je ne sais pas, l'administration universitaire ignore qu'il y a des religions dans ce pays. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus pour avoir une existence légale qui leur ouvre des droits. C'est un principe juridique. Ce n'est pas une idée comme ça. C'est un principe juridique. Le principe juridique de reconnaissance, si on fait la comparaison avec des enfants, par exemple. Quand des parents reconnaissent des enfants, ça veut dire qu'ils affichent le fait qu'ils ont des droits vis-à-vis de ces enfants, mais que fondamentalement et surtout, ils ont des obligations vis-à-vis de ces enfants. Et donc la reconnaissance d'une religion par l'État, ça voudrait dire reconnaître que l'État a des obligations par rapport aux religions. Or, depuis la loi de 1905, l'exercice de toute religion est libre. à titre public ou privé, individuel ou collectif. Simplement, l'État ne se mêle pas de ça. Les services publics ne se mêlent pas de ça et ils n'ont pas à être, impliqués là-dedans. Et c'est toute la duplicité de Macron, le fait de jouer sur le caractère culturel pour nous faire passer le fait qu'il voudrait, il va vers une situation où de plus en plus, encore plus qu'avant, la religion catholique est privilégiée par rapport aux autres. Est-ce qu'il va aller jusqu'à mettre en place un nouveau concordat, puisque un peu quand même il se prend pour Bonaparte ?
Merci Henri. Je suis désolé, je ne sais pas si on a une... de quoi illustrer de manière musicale ce que ton propos.
Alors, c'est embêtant que tu ne sois pas au courant, puisqu'on fait un peu cette émission ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Je pense et j'espère que la chanson qui a été retenue par la technique magnifique et toute puissance que nous avons, c'est le chant des canuts, si je ne me trompe pas. Et alors, je veux dire juste un mot rapidement sur le chant des canuts. C'est une chanson de révolte, c'est une chanson révolutionnaire qui date de 1831, sauf erreur de ma part. Et alors les canuts, c'était à Lyon, c'était, on va parler vite, c'était les ouvriers qui travaillaient chez eux à la soie, qui travaillaient sur la soie, et c'était un peu l'origine du travail à domicile en quelque sorte. Simplement, les soyeux, les patrons qui avaient la main mise sur le marché de la soie à Lyon, imposait des prix qui étaient évidemment des prix de misère. Ce n'est pas de nos jours qu'on verrait une chose pareille, hein. C'était à l'époque. Des prix de tout à fait des salaires de misère. Donc comme les gens travaillaient à façon, en quelque sorte, il fallait qu'ils travaillent de plus en plus pour pouvoir continuer à espérer avoir à peu près le même niveau de rentrée d'argent au fur et à mesure que les prix baissaient. Et ça a entraîné une révolte qu'on a appelée la révolte des canuts. Et il y a eu le chant de cette révolte. Souvent, les révoltes, les révolutions s'accompagnent de chansons. On en voit ça dans presque tout le temps. Et donc là, il s'agit du chant des canuts que nous allons écouter religieusement.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau. En sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous allons. Thank you. Et notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les Canus, nous n'irons plus nus. C'est nous les Canus, nous n'irons plus nus.
Oui, Claudette, Henri nous a parlé de la place privilégiée qu'aujourd'hui on a accordée à l'Église catholique. Et je crois que tu as relevé, concernant la restauration de la statue de la Vierge de Notre-Dame de la Garde, des éléments financiers qui soulèvent l'indignation. De quoi s'agit-il ?
Très bien, bonjour. Tout d'abord, avant de parler des éléments financiers, on va essayer de remettre tout ça dans le contexte. À savoir que le 14 mai dernier, le diocèse a engagé une vaste campagne de financement pour la restauration de la statue de la Vierge et accessoirement, à côté, une partie de la basilique Notre-Dame de la Garde. Alors la Vierge, il s'agissait de la recouvrir de feuilles d'or parce qu'elle s'use. Sur son site, dans un appel aux dons, le diocèse indiquait que le montant des travaux nécessaires à la restauration et à la redorure de la Vierge atteindrait 2,4 millions d'euros, dont 1,3 million pour la seule statue, qui réclamerait 30 000 feuilles d'or. Il présentait le dispositif destiné à s'assurer de la somme nécessaire, dons en ligne, appel au mécénat, CGA, CGM s'étant déjà engagés, inscription pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au concours du monument préféré des Français, reversement par des commerçants de l'arrondi supérieur au moment du paiement des achats par carte bleue. En d'autres termes, un appel aux dons privés. Dans cet appel, il rappelait que la basilique Notre-Dame de la Garde est un domaine privé, propriétaire du diocèse de Marseille. Tous les travaux de restauration historique et indispensables à la charge, indispensables à la fois, étaient à sa charge. Pas nous qui le disons, c'est eux. Il n'était donc pas question, du moins officiellement, de faire appel à des financements publics. Le 30 août, le diocèse annonçait qu'il avait récolté 800 000 euros. Et le responsable du mécénat expliquait qu'on a de tels travaux, de tels montants qu'aucun diocèse ne pourrait soutenir, c'est un acte de foi avant tout que de les lancer, tout en cherchant les financements. Donc oui, nous sommes optimistes, mais nous restons aussi très prudents parce que cela reste une somme très importante. On imagine qu'on va y arriver, mais on va avoir besoin de tout le monde. Les habitants, les fidèles du diocèse, les pèlerins, les touristes, mais aussi des entreprises locales, régionales, nationales, voire internationales. Nous allons aussi solliciter les subventions auprès des collectivités locales. Le miracle qui aurait consisté à ce qu'il n'y ait pas de financement n'est pas arrivé, et nous allons donc en parler. Nous n'avons pas été très surpris, le diocèse est assez coutumier du fait. Lors de son appel aux dons aux fidèles pour la venue du pape, il indiquait qu'il ne touchait pas de subventions, mais avait sollicité les collectivités locales par le biais de son association Maison Mariam. De même, entre 2002 et 2006, le diocèse de Marseille avait bénéficié de 6 761 858 euros d'argent public pour réparer déjà Notre-Dame de la Garde. Et ce n'est pourtant pas parce qu'il manque de ressources financières. En 2020, le journal Les Échos évaluait la richesse de l'Église catholique au niveau mondial à 2 000 milliards de dollars. Imaginez un peu la somme. Le recensement que nous avions réalisé, nous, Libre Pensée, avec nos petits moyens, en 2021, pour prouver que l'Église catholique avait les moyens de payer pour les réparations des victimes des prêtres pédophiles qu'elle avait cachées, montrer que les seuls diocèses au niveau national totalisaient la somme de 8 milliards d'euros à minima. Le diocèse de Marseille, lui, était assis sur 131 millions d'euros de biens immobiliers auxquels il fallait ajouter ses placements financiers. Évidemment, aujourd'hui, il va devoir, lui aussi, comme beaucoup de diocèses, faire face à de nouvelles dépenses, notamment les réparations des victimes de l'abbé Mélisan. Mais ça, c'est son problème. Dans un article de La Provence du 16 décembre, en réponse aux journalistes qui rappelaient que Notre-Dame de la Garde est propriétaire du diocèse, Édouard de Taille répondait aux journalistes et annoncer, ça ne veut pas dire que les collectivités locales comme la ville, la métropole, le département et la région ne participent pas à sa restauration. Elles le feront d'ailleurs. À quelle hauteur? Ça dépend du contexte qui n'est jamais très favorable des dossiers de subvention. Et effectivement, encore une fois, elles s'apprêtent à le faire. C'est le bureau de la métropole, présidé par Martine Vassal, qui a ouvert la première, le bal de l'argent public qui va être versé au diocèse pour réparer ce qui est sa propriété, avec une somme, en votant une somme de 496 000 euros. Et ce n'est hélas pas fini. Une annexe à cette délibération détaille le plan de financement prévu de l'opération, qui prévoit donc une participation de 292 000 euros pour la mairie de Marseille, 397 000 euros et 800 000 euros pour le conseil départemental, 497 000 euros pour la région. Au total, 1 680 900 euros de fonds publics. Ce qui représente ce qui laisse à la charge du diocèse 22% du montant de ce dont elle a besoin. Dans cette annexe, il a été convenu que si une instance territoriale ne peut pas s'engager à subventionner la part demandée concernant le projet, l'association diocésaine de Marseille s'engage à combler le manque créé. Exemple concret, si la mairie de Marseille ne peut subventionner le projet qu'à hauteur de 200 000 euros, l'association diocésaine de Marseille voudra bien apporter les 43 686 euros restants, en plus de ces 22% qu'elle a décidé de payer. Le diocèse, donc, pourrait payer plus, voire tout payer. Et ça tombe bien. Rien dans la loi de 1905 n'oblige, je précise bien, n'oblige les collectivités à financer la remise en état de Notre-Dame de la Garde, dont elles n'ont pas la propriété, et qui n'est pas classée monument historique. Pour rappel, l'article 2 de la loi de 1905 précise bien, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et ceci pour assurer la liberté de conscience des citoyens. Le seul élément de la loi de 1905 qui pourrait leur permettre ce financement est le dernier alinéa de son article 19, qui a été ajouté par Pétain sous le régime de Vichy par une loi du 25 décembre 1942, et dont le libellé a ouvert la possibilité aux collectivités publiques, États, départements, communes, de participer aux frais de réparation des édifices affectés au culte, qu'il soit ou non monument historique. Donc, possibilité de financer les cultes. La possibilité n'est pas l'obligation. Auparavant, le texte originel de la loi était libellé ainsi. Ils ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux monuments classés. Les collectivités, régions, départements, la mairie de Marseille, qui n'ont pas encore délibéré, vont-elles, par le biais d'une subvention pétiniste, financer la réfection de Notre-Dame de la Garde et redorer la statue de la Vierge ? À Marseille, le maire et les élus de la majorité de la ville se feront-ils les héritiers de M. Gaudin ? Quelle direction prendront-ils ? La voie du financement possible de tous les lieux de culte ouverts par le maréchal Pétain ou l'autre voie, celle des laïcs qui considèrent que les lieux de culte appartenant au culte, comme c'est le cas de Notre-Dame de la Garde, doivent être réparés par les cultes eux-mêmes. Monsieur le maire de Marseille sera-t-il le maire du diocèse ou le maire des citoyens de la ville ? Le maire de Marseille dépensera-t-il 200 000 euros pour la Notre-Dame de la Garde ou mettra-t-il cet argent pour répondre aux besoins des petits Marseillais qui voudraient bien ne plus aller à l'école avec les rats, ne plus respirer d'amiante, ou les besoins des parents qui voudraient bien être sûrs que leurs enfants sont en sécurité à l'école et n'ont pas froid ? Et apprécierait qu'on ajoute effectivement cet argent dans les caisses de l'école. De même, au bas de la colline, les citoyens qui ont peu de moyens, qui vivent dans des passoires thermiques, pourront-ils comprendre que des centaines de milliers d'euros d'argent public partent pour recouvrir d'or une statue, tandis qu'ils grelottent ou vivent dans le stress de devoir quitter leur logement ? Voter de telles subventions, ce serait rebasculer dans un autre temps, au temps des privilèges, au cours desquels les fermiers généraux collectaient la dîme pour le compte de l'Église, tandis que le peuple mourait de faim. C'est au diocèse de payer pour sa propriété. La librement s'y combattra avec tous les laïcs qui le souhaiteront, ses subventions à un culte.
Très bien. Claudette, peux-tu dire quelques mots sur la chanson « Il y a du pognon au Vatican » qui va être passée.
Alors cette chanson, je l'ai choisie parce qu'il me semblait qu'elle rentrait bien dans le contexte. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que en fait, les paroles écrites directement, j'ai cherché sur Internet, je ne les ai pas trouvées. J'ai entendu la chanson, bien entendu, et vous verrez qu'elle est tout à fait à propos. Elle a été chantée par les JPPLL en 1966 pour la première fois.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants. Saint-Pierre de Rome s'affale sous le poids des lingots. Faudrait des succursales ou bien faire des travaux. Si lourde est la cassette dont les papes sont coiffés, que lorsqu'ils baissent la tête, c'est pas d'humilité. Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Il y a tant d'or dans les cuves qu'il passe par-dessus bord. C'est pour ça que le Vésuve vomit des lingots d'or. Et même la tour de Pise est prête à s'écrouler, ainsi que les églises, elle est pleine à craquer.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ça n'est pas pour les enfants.
Il pourrait toujours faire un peu de vide en appelant les camions de l'abbé Pierre aux caves du Vatican. Mais au jugement des rien, qu'il ne trouvera en coulisses que des toiles d'araignées. Tout sera planqué en Suisse.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Au jugement dernier, Dieu ne faut voir en coulisses que les toiles d'araignée.
Tout sera planqué en Suisse. Il y a plein d'argent au Vatican.
ce n'est pas pour les enfants.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Ce n'est pas pour les enfants.
Voilà, eh bien, avant de conclure cette émission, je voudrais vous rappeler le rendez-vous culturel et festif du 26 janvier au Centre culturel d'animation et loisirs des Carmes, de rue des Carmes, 2e arrondissement de Marseille, avec à 10h30, une conférence d'histoire sur les trois séparations des Églises et de l'État. Révolution française, Commune de Paris, adoption de la loi de séparation. Et je voudrais aussi, quand même, vous faire état de la revue de la libre pensée qui s'appelle L'idée libre, avec son numéro 347. Qui a pour thème la Suisse. Au travers de ce qui intéressera tout particulièrement nos auditeurs attachés à découvrir comment chez notre voisin se posent les problèmes de la religion, du cléricalisme et du combat contre celui-ci, ainsi que des aspects sociaux, sous des aspects différenciés selon les cantons. Ainsi, vous pourrez y lire que si le salaire moyen est une fois et demie celui de la que nous connaissons en France, le coût de la vie courante y est une fois et trois quarts de celui-ci, de ce qui se passe en France. Et vous aurez aussi, par exemple, un article qui traite des migrations et aussi un article fort intéressant qui décrit l'implication d'organisations suisses dans la colonisation par la Belgique du Congo. En ce qui concerne notre actualité départementale, il y a la parution du numéro 138 de l'Impertinent, avec la poursuite du dossier sur le financement des écoles privées par les collectivités locales de notre département, mairie, métropole, département et région. Vous aurez aussi, peut vous le signaler, un article sur une manipulation au pilon du roi. Voilà. Merci donc à Claudette, Henri et Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Merci encore à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, le mercredi 5 février, de 14h à 15h, comme habituellement.
Pour chanter Veni Creator, il faut une...